quand Ève, après avoir enfanté son premier enfant, dit « J'ai acquis un fils de par Yahvé ». Donc elle exprime cette première alliance qui n'a pas été exprimée du côté de Dieu. Tandis qu'avec Noé, et c'est ça qu'il faut bien comprendre au point de vue théologique, c'est Dieu qui répond à l'honnêteté, à la sainteté de Noé, c'est Dieu qui répond en établissant une alliance. Et moi, voici que j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux et toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, tout ce qui sort de l'arche, toutes les bêtes de la terre. Là, voyez, ça, c'est la logique admirable. Hein. C'est extraordinaire, on voit très très bien. Toutes les bêtes qui sortent de l'arche, toutes les bêtes de la terre. Parce que, de fait, il n'y a plus rien d'autre. C'est pour bien nous faire comprendre qu'on est devant une reprise radicale, une nouvelle création. C'est ça qui est important, parce que dans la mesure même où ce qui existe par rapport à Noé est préfiguratif du mystère du Christ, on va comprendre comment le mystère de la rédemption est une recréation, une nouvelle alliance qui reprend tout, mais toujours les deux aspects. À la fois, le Christ achève la loi, et en même temps, c'est une reprise radicale de tout. C'est, je crois, les deux moments qu'il faut toujours bien saisir. Eh bien, dans la mesure même où Noé est préfiguratif du Christ, c'est très important de souligner cela. Et ça, on peut le dire, que toute la tradition l'a considéré comme cela. Donc ce serait assez gros, au point de vue théologie mystique, de refuser ce point de vue-là. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc Dieu ne mettra pas lui-même un terme à la succession des générations. Dieu va laisser à l'homme un plus grand, une plus grande autorité à partir de cette nouvelle alliance. Puisque Dieu ne décide plus le terme, il le remet à l'homme. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, tout être vivant qui est avec vous, pour les générations à jamais, je place mon arc dans la nuée, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Alors on a fait une alliance, on a fait un parallélisme entre l'arc dans la nuée et le mystère de la croix. C'est du reste très beau. C'est un très beau symbolisme. De montrer que le Christ est la croix, c'est l'arc. Où tout l'amour de Dieu, toute la miséricorde de Dieu est tendu vers les hommes, cet arc dans la nuée. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous, entre moi et la terre. Alors cet arc dans la nuée, nous savons bien, selon l'Apocalypse, c'est la paix, c'est l'alliance ultime et dernière qui provient du trône du Père. C'est donc l'alliance pacifique par excellence. C'est donc ce qui donnera une signification à toutes les prophéties qu'on trouvera progressivement dans l'Écriture, qui toutes s'achèveront dans le trône du Père. Et quand j'assemblerai une nuée au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tout être vivant de toute chair. Alors c'est aussi très intéressant de voir là, c'est le mémorial. L'arc-en-ciel devient le premier mémorial. Le premier mémorial, vous savez bien cette expression qui est si étonnante, c'est que Dieu veut nous faire comprendre qu'il se souvient. Vous voyez l'anthropomorphisme merveilleux, parce que Dieu n'a pas besoin de se souvenir, hein, tout est en acte en lui. Nous avons besoin de nous souvenir. Alors comme il parle des hommes qui ont besoin de se souvenir, et que c'est ça, on oublie si vite. L'homme est un animal qui oublie. N'est-ce pas? Ça fait partie de la définition de l'homme, ça. Il oublie surtout les gestes de bonté qu'on a eus vis-à-vis de lui. Alors il les oublie. C'est la remarque que fait Jésus, ça. La reconnaissance est une chose si rare. Alors, Dieu veut fonder la reconnaissance par le mémorial. Ça, c'est très, très étonnant, parce que chaque fois qu'on nous parle de Dieu, c'est pour montrer à l'homme ce que Dieu attend de l'homme. Hein. Faut pas l'oublier. Dieu n'a pas besoin d'un mémorial. Dieu n'a pas besoin de l'arc-en-ciel. Vous comprenez bien, Dieu ne va pas regarder tout le temps s'il y a un arc-en-ciel après une pluie, n'est-ce pas? Et si le soleil est là présent, c'est du reste très très beau de voir que l'arc-en-ciel est après la pluie. Hein. Alors tout ce que peut signifier la pluie peut signifier la fécondité et aussi le mauvais temps. Alors vous voyez, il y a une espèce de double symbolisme. Hein. Et quand j'assemblerai une nuée au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et en le voyant, je me souviendrai de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. C'est important parce que c'est le premier signe pour la théologie des sacrements. Hein. Nous allons y venir, à la théologie des sacrements, progressivement. Il faut bien la noter. Vous voyez que la théologie des sacrements est une théologie qui repose sur le mémorial. Très important pour l'Eucharistie. Parce que ça repose sur le mémorial. C'est un signe. Alors, du côté de Dieu, c'est bien évident, Dieu n'en a pas besoin. Mais c'est une surabondance d'amour pour les hommes. Les hommes ont besoin de ça. Les hommes ont besoin d'avoir un signe de l'éternité dans le temps. Et c'est un signe qui est donné dans l'éternité dans le temps. Alors l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'éternité, de la paix éternelle qui est auprès du Père dans le temps pour les hommes, à travers la pluie et la lumière, le soleil. Hein, puisque l'arc-en-ciel présuppose la pluie et le soleil. Hein. Il y a les deux, il faut bien, pour qu'il y ait l'arc-en-ciel. Alors vous voyez symboliquement ce que ça peut signifier, cette espèce de lumière d'éternité dans le temps. Au milieu des plus grands ténèbres. Il y a quelque chose de lumineux. C'est ça les sacrements. Dans ce qu'il y a de tout à fait premier, dans le langage de Dieu, dans le langage de l'Écriture. C'est donc important de souligner, puisque c'est là le premier moment. Dans une théologie biblique, vous savez très bien, ce qui est très important, c'est de saisir les premiers. On est dans un ordre génétique. Et donc dans un ordre génétique, c'est très important de saisir les premiers. Et ceci est lié à Noé, pas avant. Alors, avant, il n'y a pas de signe donné de cette manière-là. Il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est lié à Noé. Donc, dans la mesure où Noé représente le mystère du Christ, nous comprenons l'arc-en-ciel et le signe. Alors après, nous avons un chapitre 10 assez curieux. Je vais aller assez vite là-dessus parce que c'est pas... C'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. C'est une histoire très particulière, hein? Une histoire symbolique. Ce serait sans doute très intéressant pour la théologie de l'histoire. Parce que c'est peut-être ça qui serait le premier moment. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam, Japheth. Ils sont trois. Cam est le père de Canaan. Ces trois sont les fils de Noé, et c'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. C'est l'avantage ici, c'est qu'il y en a trois, tandis qu'avant il n'y en avait qu'un. Une dispersion plus rapide, qui explique davantage la diversité, vous comprenez. C'est toujours le problème de l'unité de la diversité. Hein. À partir de Noé, à partir d'Adam et Ève, qu'une souche. Ici, il y a trois souches. Noé, homme du sol. Donc Noé, homme du sol, homme de la terre, commença de planter la vigne ayant bu du vin, il s'enivra et se dénuda au milieu de sa tente. Donc nous l'avions vu, ce passage très intéressant et très important, parce que nous voyons là l'aspect de la malédiction, n'est-ce pas, sur les deux qui ont maudit, du moins qui n'ont pas respecté leur père. Je ne reviens pas sur ce point de vue-là, nous l'avions vu, mais c'est important de voir que parmi la descendance de Noé, il y a donc ceux qui reçoivent une bénédiction et ceux qui reçoivent une malédiction. Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet, à qui des fils naquirent après le déluge. Alors, je passe ici l'énumération, vous la lirez. C'est intéressant, il y a des tas de choix symbolismes qu'on peut donner là-dessus. Si vous le voulez, une fois on reviendra. J'aime mieux voir tout de suite le chapitre 11. Que ça complète ce que nous avons vu. Toute la terre avait un seul langage et les mêmes mots. C'est curieux ça, hein? Il y a une dispersion à partir des trois, et cependant le langage reste le même. Or, en partant du côté de l'Orient, les hommes trouvèrent une plaine au pays de Kinéar. Ils s'y établirent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons... » Donc Kinéar désigne la Babylone, la Babylonie, hein. Alors, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Donc, l'apparition du Fatshéré. Avant, il y avait uniquement, n'oublions pas, il y avait uniquement ceux qui labouraient la terre et puis les troupeaux. Apparition d'un troisième type particulier. Parce que Noé, il a construit l'arche de Noé, n'est-ce pas, un menuisier extraordinaire. Le père des menuisiers, c'est Noé, hein, faut pas l'oublier. C'est pour ça que le père de Jésus est charpentier, n'est-ce pas? Alors, le père de Noé, Noé c'est le père des charpentiers, mais c'est Dieu qui lui-même avait tout fait, hein. Il n'avait qu'à imiter. Tandis qu'ici, il y a une invention. Donc on peut dire, il y a une inspiration. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. C'est un pays de plaine, il n'y a pas de pierre, alors apparaît la brique. C'est curieux, hein, c'est la brique, c'est pas la pierre. Il faut les cuire au feu. Vous savez bien que, selon toutes les mythologies qui font apparaître l'art, c'est toujours lié au feu. Donc là, il y a un petit reste de mythe, béni par le Saint-Esprit. Non, parce qu'il y a un petit reste de mythe. Le Fatshéré est lié à la conquête du feu, Prométhée. La conquête du feu. S'il n'y avait pas de feu, il n'y aurait pas d'art. Alors on retrouve ici, ça, cette notion très curieuse. Et par rapport à la brique leur servit de pierre, l'Erzas. Quand il n'y a pas de pierre, on fait des briques. C'est bien évident. La pierre est première. C'est pour ça qu'on définit la brique par rapport à la pierre. Hein. Vous voyez bien, c'est très significatif. Parce que la pierre, c'est vraiment une chose naturelle. Tandis que la brique, ça ne pousse pas tout seul. N'est-ce pas? La brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de mortier. L'évolution au niveau de l'art. Il y a les tailleurs de pierre. C'est plus noble que ceux qui font des fours pour arriver à la brique. C'est sûr, on le voit bien, la brique leur servit de pierre. Adinstar, par rapport à la pierre. Et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. Et faisons-nous un nom. C'est très riche, vous voyez tout ça. Très, très important. Se faire un nom, c'est la gloire. faire un nom. Un nom, quelque chose qui demeure au-delà de la mort. C'est ça le nom. Parce que le nom passe de génération en génération. Hein. Petit-fils, 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 arrière-petit-fils. Non. Et en faisons-nous un nom. On se fait un nom à partir d'une œuvre qu'on construit. Parce que l'œuvre qu'on construit demeure au-delà de la mort. C'est dans ce sens-là que Malraux dira l'œuvre anti-destin. Oui, fondement biblique, hein, ça. Allons, bâtissons-nous une tour, une ville, et une tour dont le sommet soit dans les cieux. L'arc-en-ciel, c'est Dieu qui descend sur la terre, et ici, c'est l'homme qui monte vers les cieux, avec des intentions plus ou moins pures. Parce qu'on voit très bien, c'est pas du tout l'intention de louer Dieu. Non, faisons-nous un nom. C'est l'autonomie. On va acquérir une nouvelle autonomie. On va acquérir un nom. Faisons-nous un nom. De peur que nous ne soyons dispersés à la surface de la terre. Donc on va se rassembler dans l'unité pour conquérir la terre. C'est très curieux, ça. Hein? Vous voyez cette première communauté. C'est la première communauté qui nous est manifestée. Hein? Parce qu'avant, on pouvait dire que la communauté ne nous était pas dit quand on voit la succession des générations. On est uniquement au niveau de la procréation. Pour qu'il y ait une communauté, il faut la procréation et il faut l'art. Là, c'est le propre de la communauté. Quand il n'y a que la procréation, il y a une tribu. Une famille qui s'ajoute à une famille, qui s'ajoute à une famille. Là, il y a des tribus. Je sais bien qu'il y a des tribus tellement fortes qu'elles se suffisent, n'est-ce pas? Mais normalement, une communauté humaine, c'est la procréation, c'est la tribu plus l'art. Et un art où l'homme domine particulièrement la brique. C'est curieux, c'est pas la pierre. Hein? Parce que la pierre, c'est encore trop proche de la nature. Tandis que dans la brique, l'homme peut donner quelque chose qui est plus sa marque. Je crois que c'est tout ça qui est impliqué dedans. Où on voit que l'art façonne davantage, apporte quelque chose de plus. Parce que c'est pas pour rien que c'est à partir de la brique qu'on construit une ville. Alors tout symbolise de la ville dans l'écriture. Hein? Là, une fiche, la ville. Hein? Faites-vous une... Parce que c'est vrai, c'est quand même très important. Il y a le désert, il y a la ville. Il faut perpétuellement voir les deux. Et la ville, elle naît à l'intérieur d'une communauté. Elle n'est pas dans les tribus. C'est à l'intérieur d'une communauté politique. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. Donc, allons tellement haut que c'est nous, le ciel, la conquête du ciel. La conquête du ciel qui se fait par l'art. Parce que c'est vraiment la conquête du ciel. L'homme va conquérir le ciel par le point de vue de la technique. C'est ça qu'on désire tellement aller dans la lune, qu'on désire aller tellement le plus loin possible, tu vois. Et qu'on dit encore tout bonnement, en allant dans la lune, nous n'avons pas découvert Dieu. Mais bon, c'est exactement ça, c'est le même langage. Hein. C'est extraordinaire de voir ça à notre époque, de voir qu'il n'y a rien de changé. C'est exactement la même chose. Hein. Il y a un parallélisme très curieux. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom. Alors c'est l'autonomie. Je crois que ça c'est l'autonomie au-delà de la mort, au-delà de la relativité de la mort. De peur, vous voyez que se faire un nom, c'est pour lutter contre la peur, que nous ne soyons dispersés à la surface de la terre. La ville rassemble. Ce que dit Nietzsche à propos de la ville. Hein. Vous savez, il dit des paroles très très fortes. Il dit, au désert, nous rencontrons la nature et nous rencontrons une nature que l'homme n'a pas touchée. C'est pour ça qu'au désert, on a la nostalgie de Dieu. Tandis que dans la ville, on a la nostalgie de l'homme. Parce qu'on sait que tout nous parle de l'homme. Dans le désert, vous n'allez pas trouver des briques. vous trouvez des briques dans une ville. Oui. Et vous trouvez du bitume. Et vous trouvez le mortier. C'est curieux. De peur que nous ne soyons dispersés à la surface de la terre. Alors on se rassemble. Et donc la ville naît à partir d'une crainte d'être dispersé sur la surface du sol. Hein, si on veut essayer de comprendre l'origine de la ville, l'origine de la communauté humaine. Je ne dis pas, hein, nous essayons de comprendre ce qui nous est montré ici. C'est bibliquement, c'est bien cela, ça nous est dit. Yahvé descendit pour voir la ville. Ah, c'est très extraordinaire. Regardez l'autre descente de Yahvé, hein, parce qu'il y en a une. La première, vous savez, elle n'est pas tout à fait du même caractère. C'est après le péché, le premier péché d'Adam et d'Ève. Hein. Vous avez bien cela aussi. Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin. Yahvé descendit pour voir la ville. Vous voyez la différence? C'est que la distance entre l'homme et Dieu grandit. Tandis que, sitôt la première faute, Dieu était encore de plein pied, si j'ose dire. Il était là. Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. C'est toujours le soir que notre conscience devient plus aiguë. L'examen de conscience est mieux le soir que le matin. C'est vrai. Les bons sulpiciens disaient « N'écrivez pas des lettres à vos amis le soir parce que vous risqueriez de mettre une trop grande affectivité. » C'est dans les conseils qu'on donne aux bons séminaristes. Il ne faut jamais oublier ça. Donc ne faites pas votre courrier le soir, parce que votre affectivité augmente. Alors vous risqueriez de dépasser les bornes. Tandis que le matin, votre intelligence domine bien. Alors vous pouvez écrire des lettres à vos amis. Donc, le soir, c'est plus dangereux. C'est mis dans l'écriture, n'est-ce pas? C'est que la conscience de l'homme augmente le soir. Il y a un poids du péché. Et c'est pour ça que... Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour et ils se cachèrent. Ici, c'est tout à fait autre chose. Yahvé descendit pour voir la ville. Les hommes ne font plus aucune attention aux pas d'Yahvé. Ils l'entendent plus. Ils n'entendent plus du tout. Ils sont dans leur autonomie complète. Complètement renfermés sur eux-mêmes. Ils se suffisent à eux-mêmes. C'est bien ça qui nous est montré. Ils se suffisent. Il n'y a plus de place pour Dieu dans le cœur de l'homme. Parce qu'il n'y a plus de place pour Dieu dans le cœur de l'homme, tandis qu'après la première faute, il y avait encore une place pour Dieu. Ils entendaient le bruit des pas d'y avait. Tandis que là, il n'y a plus de place. C'est ça, construire une tour qui atteint les cieux. C'est ça le point de vue du symbolisme de la ville. On se suffit à soi. Plus besoin de Dieu. Le face-à-face de l'homme avec l'homme se suffit. Tandis qu'au contraire, l'homme religieux a besoin de dépasser. C'est dit admirablement au point de vue d'un langage symbolique. Hein. Yahvé descendit pour voir la ville. Dieu est obligé de regarder l'homme de l'extérieur. On comprend très bien ce que ça veut dire. Dans la mesure où il y a un orgueil collectif, l'homme n'a plus besoin de Dieu. C'est ça l'orgueil collectif. L'homme n'a plus besoin de Dieu. Donc si l'homme n'a plus besoin de Dieu, Dieu est obligé de regarder l'homme de l'extérieur. D'habitude, Dieu, nous savons bien, nous regarde de l'intérieur. Mais le péché et l'orgueil empêchent Dieu de nous regarder de l'intérieur. Fermons toutes les portes. Dans l'arche, c'était Dieu qui avait fermé la porte. Ici, ce n'est pas Dieu qui ferme la porte. Hein. C'est l'homme qui construit une tour qui atteint le ciel. Il y a une espèce d'antithèse très nette entre l'arche qui sauve l'homme et puis cette ville qu'on construit avec cette tour. Et Dieu est obligé de regarder de l'extérieur. Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et il avait dit, voici qu'à eux tous, ils sont un seul peuple et ont un seul langage. S'ils ont fait cela pour leur début, rien désormais pour eux ne sera irréalisable de tout ce qu'ils décideront de faire. Voyez, le fat chéré deviendra l'absolu. Dieu prophétise, hein? C'est une prophétie, ça. C'est Dieu qui prophétise. Si le fat chéré devient premier, eh bien, il va devenir tel qu'il va faire qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Voici qu'à eux tous, ils sont un seul peuple et ont un seul langage. S'ils ont fait cela pour leur début, rien désormais pour eux ne sera irréalisable de tout ce qu'ils décideront de faire. Donc ils auront une espèce de toute-puissance dans l'ordre du faturé. Et tout ce qu'ils voudront réaliser, ils le réaliseront. Alors l'homme devient rival de Dieu. Parce que justement, l'homme se construit cette tour qui atteint les cieux. Les cieux, hein, n'oublions jamais, les cieux, c'est le symbolisme de la contemplation. J'atteins les cieux par la contemplation. Et je demeure dans les cieux par la contemplation. Tandis que là, on veut atteindre les cieux par la puissance du faturé. On veut édifier une tour qui atteint les cieux. Et dans laquelle donc on pourra y pénétrer soi-même. Et donc, par la puissance de l'efficacité, je n'aurai plus besoin de la contemplation. C'est l'efficacité qui remplace la contemplation. Si j'essaie de comprendre ce langage symbolique hein, qui nous est donné avec beaucoup de force, hein, puisque là, il y a une espèce de gonflement, si vous voulez, de l'homme à tel point que Dieu est relégué. Allons, descendons, et là même confondons leur langage, de sorte qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. Dieu va humilier l'homme sur son propre terrain. Dieu va donner une leçon. Les hommes sont pleins d'eux-mêmes dans cette espèce d'orgueil collectif qui fait qu'ils construisent cette tour qui atteint le ciel et qui fait qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Alors Dieu va lui-même montrer à l'homme sa limite. Et comment va-t-il montrer à l'homme sa limite? C'est dans la coopération des hommes entre eux. Confondons leur langage de sorte qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. C'est par la langue qu'on peut coopérer. On le sait bien. Et alors le signe là qui nous est montré, il va y avoir non plus seulement une rivalité de l'homme par rapport à Dieu, mais une rivalité de l'homme par rapport à l'homme. Et ce sera la conséquence immédiate de leur orgueil collectif. Dès que l'homme s'enorgueille d'une manière telle qu'il chasse Dieu et qu'il n'a plus besoin de Dieu, il y a une justice immanente qui se fait immédiatement, qui fait que l'homme ne comprend plus l'homme. L'enfer, c'est l'autre. C'est la conséquence immédiate. C'est pour ça qu'on a dit, si on tue Dieu, on tue l'homme après. La génération suivante tue l'homme. Parce que l'homme ne comprend plus l'homme. Ça, c'est très très fort au point de vue théologique, hein, comme langage théologique. C'est magnifique de voir ça. De voir que, de fait, hein, il y a quelque chose d'immédiat. Si l'homme veut se construire en dehors de Dieu, c'est-à-dire si l'homme veut trouver son unité dans l'homme, puisque c'est bien l'homme qui trouve son unité dans l'homme, C'est les hommes qui, dans un immanentisme absolu, veulent trouver leur unité et arriver à faire une œuvre commune. En chassant Dieu, il n'y a plus de place pour Dieu. Alors, immédiatement, la conséquence, l'homme ne découvre plus l'homme. Et Yahvé les dispersa. De là à la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Ils n'ont plus possibilité de se développer eux-mêmes. Voilà pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que Yahvé confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que Yahvé les dispersa à la surface de toute la terre. Alors, Perosti souligne une étymologie populaire et sarcastique explique. C'est-à-dire Babylone par Baal, confondu. Ainsi, la cité orgueilleuse, dont le nom signifie porte de Dieu, loin d'être une authentique porte du ciel, n'est qu'une ville de confusion. C'est de là que Yahvé les dispersa, pour le sémite de l'Ouest, la Mésopotamie et le berceau des origines et de la civilisation. Alors c'est très curieux, l'orgueil de l'homme. L'orgueil de l'homme apporte la dispersion, pas d'unité qui peut se faire par l'homme. C'est très très fort, vous savez, comme vision, si vous voulez, parce que ça nous aide à mieux saisir ce que représente, je crois, la quatrième faute. Ce que nous avions vu la dernière fois, je ne les reprends pas. Première faute, l'orgueil personnel. Deuxième faute, le point de vue de la jalousie, qui fait que l'homme tue l'homme, Caïn tue Abel, donc l'innocent qui est sacrifié à cause de la jalousie. Et troisième faute, l'iniquité généralisée, et Dieu a un dégoût. Dégoût de Dieu, c'est l'iniquité généralisée. Dieu donne une miséricorde nouvelle pour tout reprendre. C'est Noé, la recréation. Il y a un partage des eaux, les fils bénis et ceux qui sont maudits. Et les hommes ne comprennent pas la miséricorde. Et les hommes, dans un orgueil collectif, construisent la tour de Babel. C'est-à-dire, veulent leur unité par eux-mêmes. Vous voyez, l'œcuménisme. Trouver dans l'immanence l'unité. L'œcuménisme fondamental. L'homme veut, en construisant une ville, maintenir une unité qui soit une unité glorieuse. Faisons-nous un nom. Et on n'a plus besoin de Dieu. On chasse Dieu. Je crois que c'est bien le quatrième moment de l'histoire de l'humanité. Si ceci est vrai, vous voyez, c'est très très important pour nous. Parce que je crois que nous vivons sous le signe de la tour de Babel. Je crois qu'on peut le dire. Nous vivons en face d'une humanité qui, en raison des idéologies athées, veut se passer de Dieu. Et veut arriver à une unité par la brique et le bitume. Veut arriver à une unité par le facere, par l'efficacité. Et veut cette unité en excluant Dieu, en se creusant une tour qui atteint le ciel. Alors à ce moment-là, Dieu est exclu, Dieu n'est plus présent, il n'y a plus le mystère de l'adoration. Il n'y a plus que l'efficacité. Et cette efficacité qui fait qu'on n'a plus besoin de Dieu. L'homme se suffit à lui-même. Vous voyez, dans l'immanence. Une immanence telle que il y a le temple de l'immanence. Parce que l'homme a toujours besoin d'un temple. Alors il a le temple de l'immanence. Et le temple de l'immanence, c'est la tour de Babel. Et alors, il y a à ce moment-là la punition de Dieu, une justice immanente. C'est ça qui est très curieux. Très curieux. Une justice immanente qui fait que l'homme ne peut plus rencontrer l'homme. Il prétend l'unité par lui-même et en lui-même. Et à ce moment-là, c'est la division qui augmente. Pourquoi ? Parce que justement, cette œuvre est une œuvre qui est faite dans un orgueil collectif. L'homme prétend se justifier lui-même. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'aime mieux le prendre à partir d'ici. Vous voyez ? Parce que la lumière, oui, ça retouche. Je le prends à partir de là, parce que, vous voyez, je ne peux pas le dire philosophiquement. Philosophiquement, c'est impossible. Je peux constater un primat de l'efficience, mais je ne peux pas aller plus loin. Tandis que dans la lumière de la foi, je peux dire que le primat de l'efficience conduit à la tour de Babel. Et le primat de l'efficience va impliquer en lui-même une destruction de l'homme. Et donc c'est l'homme qui se détruit lui-même. C'est plus le déluge, c'est l'homme qui détruit lui-même. Le déluge, c'est Dieu qui se servait de l'univers pour rappeler à l'homme ses limites. Et dans l'orgueil collectif de l'humanité qui se fait par l'efficacité, par le primat de l'efficience, c'est l'homme qui lui-même se détruit. Oui. Alors, il faudrait voir tous les symptômes de destruction de l'homme par lui-même. Premier symptôme, c'est par rapport à la fécondité. La première chose qui disparaîtra de l'humanité, c'est la fécondité. Parce que c'est la surabondance de l'amour. Or, dès qu'il y a un primat d'efficacité, nécessairement, il y a une destruction de la fécondité. Parce que la fécondité, c'est de l'ordre, justement, de la surabondance de l'amour. C'est pour ça que la lutte, à son maximum, et ce qui nous est montré dans l'Apocalypse, entre le dragon et la femme. Et la femme qui enfante, le symbolise de la fécondité. Marie, l'Église, et toute créature porteuse d'amour. Puisque toute créature porteuse d'amour est féconde. Elle est source de fécondité. Et l'efficacité est là pour lutter contre cette fécondité. C'est ça qui est un parallélisme qu'on peut très facilement faire entre ce symbolisme de la tour de Babel, qui est un symbolisme très grossier, mais il est d'autant plus intéressant qu'il est grossier, vous comprenez. Selon l'exégèse de Denis, plus Dieu emploie un symbolisme grossier, plus Dieu veut nous révéler un secret. Et alors quand vous éclairez ça par ce qui nous est montré dans l'Apocalypse, la femme et le dragon, là, vous commencez un petit peu à comprendre, en comprenant que le dragon implique la bête de la terre et la bête de la mer. Et c'est la bête de la terre qui construit cette tour de Babel qui fait la ville. Vous voyez, c'est pourquoi la ville ? Pourquoi, de fait, les hommes... Alors, on donne des raisons économiques, c'est bien évident, mais qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies du tout. On donne des raisons qui sont fausses, et tout le monde les croit. Parce que c'est justement, on veut faire un mythe, et on crée un mythe. Et alors c'est l'homme qui se détruit lui-même. C'est l'homme qui arrive à se détruire lui-même. Parce que ce n'est pas Dieu qui mettra une fin à l'humanité, mais c'est l'homme qui lui-même, dans son orgueil collectif, et je dis bien l'orgueil collectif, qui fait qu'on est en face de l'anonymat. Donc c'est la faute de personne, c'est la faute de tous. Mais c'est la faute de personne. Quand c'est la faute de tout, c'est la faute de personne. Alors quand on est en face de l'anonymat collectif, en face de cet orgueil, alors à ce moment-là, on voit très bien comment l'humanité se détruit elle-même. Elle se détruit elle-même parce que justement, elle n'a plus de finalité. Alors c'est la destruction. Et c'est montré symboliquement dans ce fait-là. Dieu constate, descendons et là même confondons leur langage. Alors c'est la confusion, la tour de Babel, on la trouve dans la philosophie contemporaine. On la trouve dans la théologie contemporaine. On la trouve au niveau de tout le reste. La tour de Babel, c'est ça, c'est de fait, on veut cette unité et pratiquement on engendre la dispersion. Et c'est la dispersion qui fait qu'on n'arrive plus. Qu'on n'arrive plus à parler le même langage, on n'arrive plus à se comprendre, on a une confusion. Pourquoi ? Parce que c'est l'orgueil universalisé qui veut construire la tour de Babel. Qui veut construire cette tour qui atteint le ciel. Donc, c'est quelque chose de très fort. Alors, si vous regardez ça par rapport, vous voyez, à la petite maquette de toute l'histoire de l'humanité, vous voyez qu'après la miséricorde de Noé, qui est symbolique, qui représente la miséricorde du Christ, qui représente la recréation de toute chose dans le Christ, vous voyez que les hommes n'acceptent pas la miséricorde. C'est la chose la plus difficile, c'est d'accepter la miséricorde. Parce qu'il faut accepter d'être pauvre. Et les hommes n'acceptant pas la miséricorde veulent se passer de la miséricorde. Il se passe de la miséricorde par le facere, par un orgueil collectif qui veut, de fait, atteindre le ciel. Donc on peut dire que c'est le dernier moment de l'histoire de l'humanité qui est nous présenté par la tour de Babel. Voici la descendance de Sem. Alors à partir de là, on nous donne la descendance de Sem. Alors ça se termine quand Terah eut vécu 70 ans. Il engendra Abraham, Nahor, Haran. Donc, vous voyez le raccrochement, si j'ose dire, n'est-ce pas, de Sem à Abraham. Et c'est en ce sens-là qu'on voit la trame historique sous-jacente. Mais il est évident que l'histoire proprement dite commence avec Terah, c'est-à-dire avec Abraham. Et c'est à partir de là que nous avons la descendance de Terah et que nous voyons l'histoire d'Abraham qui va apparaître. Donc, je crois que nous pouvons dire ceci assez facilement, hein, parce que c'est ça qu'il faut bien saisir si on est dans une perspective d'économie divine. On voit qu'il nous est montré à gros traits, à très gros traits, n'est-ce pas ? Je dis bien à très gros traits. La verticale de la création, homme et femme. Et il nous est montré ces deux visions de l'homme et de la femme selon les deux récits de la création. Puis, on nous montre l'économie divine. Je crois que c'est très important de comprendre les deux visions. Que Saint-Amour prendra. Mais c'est important de voir son fondement dans l'écriture. Hein. La communication, la création, c'est la communication, comme dira Saint-Amour, de l'essai. On est au niveau de l'être. On est au niveau de la communication de la vie. On est aux communications de la lumière. On a les trois. Un, deux, trois. L'homme et la femme ne peuvent se comprendre que dans la lumière de la création. La création, c'est la communication de l'essai, de l'être. La communication de la vie et la lumière. Au sens tout à fait précis. Comme dit Maître Eckhart, Dieu n'a pas créé la vie. Dieu a créé des êtres auxquels il a communiqué la vie. C'est toujours très important. Le Créateur regarde au point de vue de l'essai. Le point de vue de la communication de la vie, c'est le point de vue du Père. Et c'est le point de vue de la lumière, le Père de toute lumière. Alors il communique la vie. Et il communique la lumière. La lumière, c'est l'esprit. Alors, voyez bien les trois. Ces trois niveaux qui nous sont donnés. Hein. C'est biblique, ça. Ne dites pas que c'est philosophique. C'est biblique. Il faut être intelligent pour lire la Bible. Hein. Il faut être intelligent. C'est très important parce que vous rejoignez là quelque chose qui est fondamental dans toutes les traditions philosophiques qui se tiennent, c'est-à-dire celle d'Aristote et celle de Platon. Alors, vous avez les deux choses, laisser la vie, la lumière. Ce que saint Thomas dira, esse vivere intelligere. Alors, c'est important parce que vous voyez que ça a une base. Comprenez bien, le philosophe l'a découvert par lui-même. Mais nous rejoignons la base scripturale. Alors, c'est toujours très intéressant de voir que la recherche philosophique rejoint une révélation biblique. Je dis ça, c'est très important pour nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on prétend tout le temps qu'il y a une séparation complète entre le génie sémite et puis le génie grec. Le génie grec, c'est Platon et Aristote. Donc le néoplatonisme, ça fait partie du génie grec, hein, et puis Aristote. Eh bien, vous retrouvez quelque chose de commun entre les deux, et c'est ça qui est important de voir, qu'on rejoint cette division fondamentale, esse vivere intelligere. Ça, c'est quand même important, parce que c'est le fondement. Vous voyez, si là, ça ne collait pas, ben, ça ne collerait jamais. Tandis que là, ça colle. Ça, on ne peut pas le nier. Ça nous est montré. À partir de la création, vous avez le gouvernement divin. Ça, c'est intéressant. C'est que dès qu'il s'agit du gouvernement divin, je suis dans la révélation. La création, elle est comme commune. Il y a quelque chose de commun entre la révélation et la recherche philosophique. Et vous voyez que ce quelque chose de commun entre la révélation et la recherche philosophique, c'est la création. C'est pour ça que beaucoup de théologiens modernes rejettent la création. Parce que si vous rejetez le problème de la création au niveau théologique, en disant la création n'a rien à voir avec la théologie, vous refusez le point de rencontre de la recherche philosophique et de la foi. Je vous dis ça, c'est parce que ça rejoint notre cours foi et philosophie. Vous voyez, et nous le trouvons ici comme base fondamental, le problème de la création. Alors évidemment, la foi le donne dans un mode symbolique, mythique si vous voulez, mais symbolique, tandis qu'au contraire, le philosophe, lui, c'est le logos. Alors vous avez les deux, mais il ne faut pas faire d'opposition entre le moutos et le logos. Hein. Aujourd'hui, il faut faire au contraire un lien entre les deux en respectant la différence du langage symbolique de la foi et du langage intellectuel du philosophe. Je ne dis pas rationnel, intellectuel, le logos grec. Le logos grec, ce n'est pas la raison de Spinoza. C'est autre chose. C'est de point de vue intellectuel. À partir du gouvernement divin, tout de suite, c'est le point de vue de la foi. Je ne rejoins absolument pas dans un langage philosophique ce qui m'est donné immédiatement au point de vue du gouvernement divin. Pourquoi ? Premier moment du gouvernement divin, la tentation avec le serpent. Vous comprenez bien que le serpent, il est absent du logos philosophique. Complètement absent. C'est le moutos dans toute sa force. Hein. Le moutos le plus fondamental, c'est le serpent. C'est extraordinaire, Marcel. C'est intéressant. C'est le moutos le plus fondamental, c'est le serpent. C'est celui qui est complètement en dehors du logos grec. Complètement. Qui fait partie des traditions religieuses. Et il fonde les traditions religieuses. Alors, en face du serpent, il y a Ève, hein, la petite Ève. La gentille petite Ève en face du serpent. L'animal rusé. Cette espèce d'intelligence renversée. Parce qu'elle n'a plus de finalité. Non, c'est ça la ruse. C'est l'intelligence renversée. C'est le mensonge. Face à ça. Et alors, Ève, qui échappe, hein, Ève ne fait pas partie du logos philosophique. Aristote n'a jamais parlé d'Ève. Et Platon non plus. C'est très ennuyeux. Et c'est merveilleux. Alors vous allez dire, le premier symbole, c'est Ève. Le premier symbole, c'est Adam et Ève. Voilà les deux premiers symboles religieux. C'est Adam et Ève. Les premiers mythes religieux. N'est-ce pas, en comprenant bien mythe. Les deux premiers symboles religieux, c'est Adam et Ève. Et le troisième, c'est le serpent. Parce qu'il forme une communauté. Oui, c'est comme ça que vous rejoignez le cardinal Journet. N'oublions pas que le premier dialogue, c'est entre Ève et le serpent, à l'intérieur de cette communauté qui a été faussée. On a fait tomber les remparts.